Sur Radio Prévert, nous allons parler d'art et quelle rencontre, magnifique rencontre. Tout d'abord, elle s'est faite par l'intermédiaire d'un coup de fil et puis là, ça se passe en studio, celui de La Flèche en l'occurrence, avec Eric Dos Santos. Bonjour.
Bonjour Jocelyn, bonjour aux auditeurs de Radio Prévert.
Alors pour rien cacher aux auditeurs, on s'est déjà vu lors de la soirée du réseau club, du club des entreprises du pays fléchois dont vous êtes membre.
Tout à fait, depuis le début de l'année.
Et c'est un plaisir de vous recevoir à nouveau, de vous retrouver dans ce studio de La Flèche pour parler d'un lieu qu'on m'a décrit comme étant un lieu atypique, qui a une spécificité culturelle rare. Ce sont les termes qu'on m'a utilisés pour décrire ce lieu que vous avez créé ex nihilo, comme dirait l'autre. Et justement, comment vous en êtes arrivé à cet acte de création? On va prendre le temps de raconter cette initiative artistique qui se déploie juste à côté. Hein. On n'est pas très loin de La Flèche.
On est à 20 minutes en voiture.
Et c'est précisément à...
Sur la commune de Parçay-sur-Sarthe, en plein milieu des bois.
Que vous avez pensé à créer une galerie. Une galerie unique. Peut-être que vous allez me dire que vous n'avez pas parcouru le monde pour trouver des répliques, s'il en est. Et ça s'appelle The Artistic Red Dot.
Voilà, c'est le nom en anglais. Parçay-sur-Sarthe a fait partie de la guerre de Cent Ans et donc de temps en temps était anglais, de temps en temps était français. Voilà pourquoi un nom en anglais, The Artistic Red Dot. Red Dot voulant dire le point rouge. Et dans les galeries d'art, lorsqu'une œuvre est vendue, mais qu'on veut la garder pour que tout le monde puisse en profiter le temps de l'exposition, le galeriste met un petit point de rouge. Ça veut dire vous avez le droit de la regarder, mais elle est déjà acquise par un collectionneur. Et The Artistic Red Dot, ça veut dire le point rouge artistique. Red Dot est en trop court.
The Artistic Red Dot, Eric Dos Santos, c'est déjà un lieu. Un lieu, on va dire, somptueux.
Moi, je dirais, c'est un lieu qui a été créé au XVe siècle, qui a été agrandi au XIXe siècle. Donc, ça fait un ensemble de bâtiments au milieu d'un parc de 8 hectares où vous avez 3-4 hectares de bois. Et ce qui fait que ça fait un lieu caché, hein, comme on le dit. Si vous passez sur les routes aux alentours, vous ne verrez pas le lieu car il est caché. Vous ne verrez pas les bâtiments car il est caché par les bois qui ont été plantés au siècle dernier. Et c'est ça qui le rend un petit peu atypique, parce que créer une galerie d'art au milieu des bois, en plus sur lequel un site qui n'est pas ouvert au public mais qui est ouvert sur rendez-vous, c'est quelque chose, oui, là on peut dire d'atypique par rapport à une galerie d'art rue de Seine à Paris, ouvert au public 7 jours sur 7. Donc la question elle est, pourquoi oser un pari pareil? Pourquoi se faire cumuler tant de difficultés? Et au contraire, c'est vous savez, l'art est quelque chose qu'on n'est pas obligé d'aimer globalement, mais lorsque l'on aime, on a tendance des fois à faire des voyages pour aller dans tel et tel musée, pour voir tel et tel expo, pour aller suivre tel et tel artiste, et on se positionne un petit peu dans ce cas-là pour les amateurs d'art et pour les collectionneurs, c'est de dire si vous voulez vous faire plaisir dans votre désir de voir de l'art, de la peinture, de la sculpture, des installations, on sait que vous allez prendre le temps de vous lever le matin, de prendre rendez-vous, de prendre la voiture pour aller voir de l'art de droite et de gauche. Et plus que de l'art, c'est un peu une expérience globale où on dit aux gens, vous vous aimez suffisamment pour vous donner 2 à 3 heures de votre temps dans une seule galerie pour découvrir 220 œuvres. On vient, en fin de compte, à la galerie comme on va à l'opéra, comme on va au théâtre, quand on va, comme on va dans un restaurant où on sait qu'on va se faire plaisir. On se fait beau, on prend le temps, on réserve et surtout, on espère qu'il y aura la promesse de se faire plaisir. Ben, on est un petit peu dans cette position-là, on ne vient pas chez nous par hasard, on vient parce qu'on s'aime suffisamment pour se donner du temps par rapport à ce qu'on aime et entre autres l'émotion vis-à-vis des œuvres d'art.
Alors, Eric Dos Santos, avant de vous dire que c'est à cet endroit-là, à Parçay-sur-Sarthe, qu'il fallait que je crée cette galerie, Il y a bien eu un cheminement.
Oui, tout à fait, parce que je viens pas du tout. Je suis un jeune galeriste, malgré mes 58 ans. Je suis jeune galeriste, oui. Je peux mettre le mot jeune et 58 ans dans la même phrase.
Bien sûr.
Et pour la petite histoire, je suis une personne qui a vécu dans l'industrie du logiciel, donc du gros logiciel pour les entreprises. Et ma dernière grande fonction, ça a été d'être cofondateur et patron d'une start-up dans le domaine du logiciel, dans le domaine du cloud et du service client. Et on a eu la chance de créer cette start-up et de pouvoir la revendre au bout de 12 ans, avec toutes les difficultés d'une start-up et tous les bonheurs d'une start-up, pour être très franc, de la revendre à un éditeur logiciel en Californie. Et donc de pouvoir changer de vie. Et en parallèle de cette expérience de start-up, mon épouse est artiste peintre. Et j'aime bien dire que quand elle faisait des foires, des salons, des expositions en galerie, quand j'y allais le week-end, quand j'étais disponible, c'était un petit peu mon anti-burn-out, parce que ça me permettait de sortir, en fin de compte, en la suivant, de mon domaine d'activité, sachant que je travaillais sur 3 continents. C'était assez compliqué. On va dire que j'avais une vie un peu surmenée. Et quand je la suivais, j'avais les yeux un peu du businessman et je regardais ce marché de l'art. En étant assis dans les salons ou en étant debout dans les vernissages auxquels elle participait. Et je me disais que ce marché est assez étonnant et qu'il ne correspond pas aux autres marchés que je connaissais de l'industrie, de l'alimentaire ou du logiciel. Et je m'étais dit, si jamais les petits cochons ne me mangent pas et que j'ai du temps en fin de carrière, j'essaierai de faire quelque chose dans le marché de l'art. Donc, comme vous voyez, ouais, ça a été une longue construction. Une longue construction.
Alors, 3 continents, avez-vous dit, dans le cadre professionnel, Europe...
Afrique, Moyen-Orient et Asie.
Eh bien, c'est tout ça qui aussi a contribué à nourrir cette passion pour l'art en général, j'imagine, parce que vous avez suivi votre épouse aussi au gré des pérégrinations artistiques, des expositions en vernissage. Et puis vous vous êtes dit, tiens, j'ai aussi cette fibre-là. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous vous êtes dit, tiens, une fois que je suis à la retraite, voilà, je vais me lancer, c'est le bon moment?
Alors il y a 2 choses, c'est que je suis collectionneur depuis tout petit. Depuis l'âge de 19 ans. Et la petite histoire est assez rigolote, puisqu'à l'époque, j'habitais à Chamonix et j'avais acheté une peinture qui était une marine. Alors, acheter une marine à Chamonix, il faut quand même avouer que c'est pas évident.
C'est ça.
Une toile que je n'ai plus, et globalement, qui méritait peut-être pas de rentrer dans la collection actuelle. Hein,
pourquoi?
Pour être très froid. Je pense que c'était une toile un peu facile, sans exigence, un peu déco. Voilà. Si je peux
D'accord.
pas trop en dire de mal.
Okay. On va éviter.
On va éviter, voilà. Elle est perdue, voilà. Je ne sais pas où elle est. Et donc, il y avait ce côté, une attention par rapport à l'émotion que donne une œuvre. Alors que j'étais dans une famille où l'art n'était pas un sujet, entre guillemets, n'était pas un thème. Et puis, donc, j'ai continué à collectionner un peu plus ces dernières années. Et donc, ce déclic, ça a vraiment été... En gros, la grande différence entre le marché de l'art... Alors, quand je parle de marché de l'art, je ne parle pas du marché des toiles à 1 million, à 10 millions, à 100 millions qu'on retrouve à Drouot. Je parle du marché de l'art que j'appelle l'art émotion. C'est-à-dire que l'art que vous achetez parce que vous avez vu une œuvre et vous la voulez sur vos murs, vous la voulez dans votre salon, vous la voulez dans votre chambre. D'accord. Okay. L'art où qu'on regarde tous les matins. L'art business, ce sont des œuvres qui sont dans des ports francs, dans des coffres forts et que personne ne voit et c'est une ligne sur votre compte en banque. Donc moi, je parle bien de l'art émotion, celle que vous touchez si c'est une sculpture et celle que vous regardez après l'avoir achetée.
Et celui-là, il n'a pas de prix, il n'a pas ce coût que vous décrivez pour l'art business?
Alors, l'art business, on est largement au-dessus de 100 000 euros. Et puis, l'art émotion, on est en dessous de 100 000 euros.
D'accord.
Alors, et pour vous dire, dans les expos que l'on fait, nous avons des graveurs. Et une gravure démarre à 200-250 euros. Donc, on est très, très loin des 100 000 précédents.
Aux antipodes.
Ah, mais c'est pas mal. Je vais le garder, ça, aux antipodes.
Merci.
Et, euh, Et le truc qui est assez étonnant, c'est que le marché de l'art émotion, hein, pour maintenant qu'on a mis une définition, je trouve que c'est un marché qui est pas du tout organisé comme les autres marchés classiques. Et en gros, je trouve que les artistes qui exposent, souvent d'aller voir une expo, est suffisant pour les nourrir. Alors qu'un artiste, quand il se lève le matin, il paye son URSSAF, il paye ses pinceaux, il paye sa peinture, il paye sa terre, il paye sa toile. Et puis ensuite, il est rémunéré que lorsqu'il y a une vente. Et c'est quand même un marché, quand on parle de l'ubérisation, eux, ils sont ubérisés depuis extrêmement longtemps. Ils n'ont jamais été rentrés dans un marché classique dans l'art émotion. Et je m'étais dit, c'est pas normal. C'est pas normal que regarder une toile suffit à nourrir un artiste, puisqu'on le sait très bien que ça ne suffit pas à nourrir un artiste. Et donc, je m'étais dit, il faut agir pour, en fin de compte, booster un petit peu les ventes et permettre aux artistes d'être mieux rémunérés en augmentant le nombre de ventes.
Nous sommes toujours avec Eric Dos Santos de la galerie The Artistic Red Dot Art, située à Parçay-sur-Sarthe, qui nous raconte comment cette aventure passionnante au niveau artistique a commencé, comment il s'est dit, tiens, il va falloir faire quelque chose pour justement permettre aux artistes de pouvoir vivre de leur art, hein, si j'ai bien compris ce que nous avez expliqué les premières minutes de cet entretien qui est diffusé sur Radio Prévert. Et on va revenir à cet endroit magnifique que vous avez créé, cette galerie atypique dont on parlait, pour que l'art émotion puisse avoir droit de cité. Et j'ai compris que en matière d'espace, il y a de quoi faire, puisque les œuvres que vous proposez à ceux qui viennent sur place, eh bien, ont un écrin, allez, majestueux, vous le disiez, dans un décor arboré en pleine nature.
Oui, parce que je pense que le cadre fait partie aussi de l'émotion, hein, en fin de compte. Hein. Aller dans un lieu froid, vous avez certains lieux d'art contemporain qui sont eux-mêmes froids, et je dirais presque que l'œuvre doit se battre un petit peu pour réchauffer et apporter de l'émotion. Là, je pense que l'endroit est chaleureux, c'est ce qu'on entend de nos invités, et certaines personnes ont du mal à partir. Quelqu'un m'avait dit, on est resté 2 heures, j'ai l'impression d'être parti en vacances. Wow. Ouais, y a des choses comme ça, c'est bien.
Quelle belle récompense.
On accepte la remarque vraiment avec plaisir. Et donc, il faut que le lieu mette les gens dans un état où ils vont pouvoir laisser s'exprimer leurs émotions sans aucune pudeur. Donc, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un joli lieu, plutôt rustique. Hein, on n'est pas sur du gothique flamboyant. Donc, c'est très accessible. Je dirais, c'est de la vieille pierre très accessible. Et puis, la galerie est une ancienne écurie. Donc, un lieu aussi, encore une fois, rustique que l'on a transformé, que l'on a restauré et que l'on a transformé en galerie d'art. Donc, l'écran est intéressant aussi pour les artistes et bien sûr les œuvres qu'ils ont créées.
Et là, dans la brochure que vous m'avez laissée, et pour préparer cet entretien, j'y ai parcouru un témoignage de collectionneurs qui parlent de leur passage, je les cite à la galerie, comme un voyage immersif, inédit, par la magie du lieu et le concept de la galerie. Il y réside une ambiance singulière, tant par l'accueil que par la variété des œuvres et des techniques présentées. Donc, de belles paroles qui doivent sonner agréablement à vos oreilles, Eric Dos Santos.
Oui, vous avez utilisé le mot atypique tout à l'heure, et puis là, j'ai relevé le mot singulier. Je crois que ça va bien au lieu. C'est-à-dire que c'est pas un lieu prout-prout, c'est pas un lieu guindé, c'est un lieu où on vous reçoit en vous prenant dans nos bras, entre guillemets. Enfin, c'est l'état d'esprit. Hein. Et c'est un lieu où on va faire en sorte que vous soyez bien. Alors, il y a, par exemple, quand vous êtes accueilli par des œuvres d'art déjà à l'extérieur, et puis vous aurez sûrement la chance de voir un paon bleu, un paon bronze, toute une troupe de paons blancs qui vont venir et des petites poules qui vont venir vous accueillir et qui seront chez eux. Hein. Donc, ils hurleront quand ils hurleront, ils brailleront quand ils brailleront. Et je pense que il y a ce côté sympa, plus les arbres, le parc, et puis cette vieille pierre, qui fait que instantanément, on change presque de d'état d'esprit. On se met dans un état d'esprit beaucoup plus sympathique et prêt à recevoir, en fin de compte, de l'émotion. Vous savez, des fois, je dis une visite chez nous, c'est un rendez-vous entre parenthèses dans votre agenda. Vous savez, c'est le truc où on met en noir, personne ne sait, vos collègues, votre assistante, votre patron, il ne sait pas ce qui se passe pendant ces deux heures-là. Il se dit, bon, ils travaillent suffisamment bien pour ne rien dire. Et mais il faut que dans l'état d'esprit, ce soit ça, quoi. C'est vraiment un cadeau que vous offrez à titre personnel. Et c'est un moment, un rendez-vous avec vous-même, entre parenthèses, dans votre agenda.
Et l'aspect sur lequel ce témoignage insiste également, la variété des œuvres et des techniques présentées.
Alors, comme on a une écurie, vous voyez, une écurie, vous avez tous les chevaux qui sont dans des, je crois qu'on appelle ça des paddocks, donc dans des espaces à peu près de 12-14 mètres carrés et puis des salles beaucoup plus grandes. Et l'objectif, c'est de faire, en fin de compte, plusieurs, comme si vous alliez dans plusieurs galeries en même temps, et chaque artiste a sa propre salle. Alors, on appelle ça en anglais un solo show, hein, c'est-à-dire que chaque artiste a son propre lieu pour exposer. Mmh. Et ce qui fait qu'on va pouvoir varier des ambiances, des écritures, des univers différents parce que par artiste. Donc on a des salles où on va marier un peintre et un sculpteur, et puis des salles où il va y avoir qu'un sculpteur ou qu'un peintre en fonction du type de salle, de la taille de la salle, et puis la taille des œuvres aussi des artistes. Et de la même façon, voilà, on a des graveurs où ça permet d'acquérir des très belles œuvres à un prix beaucoup plus faible, et puis on a des œuvres beaucoup plus conséquentes, des bronzes par exemple, où les prix montent assez rapidement. Et pour nous, c'est hyper important pour moi quand quelqu'un acquiert une gravure, une petite gravure, et que c'est sa première œuvre, je trouve que il y a autant d'émotions qu'un collectionneur qui va prendre un bronze de 50 kilos.
Et comment vous faites le choix justement des œuvres, des artistes que vous mettez en avant? Vous nous parlez d'art émotion. Donc je me dis, indice, si j'étais un inspecteur de police qui mène une enquête, donc... Le déclencheur, ça doit être que ça vous parle à vous-même déjà.
Alors oui, il faut... Et puis, il faut avoir une sensibilité. Par exemple, je n'ai pas à titre personnel de sensibilité pour le street art, par exemple. Et je sais que si je faisais une sélection d'artistes dans le street art, ça serait peut-être incohérent les uns avec les autres.
Okay.
Parce que je n'ai pas la culture et puis surtout pas l'émotion. Donc, je dirais, la culture, ça s'acquiert. L'émotion, on est avec. Hein. On peut avoir de l'émotion pour tout, mais on est avec, mais on peut pas, je pense pas qu'on puisse l'acquérir.
Ouais.
Et donc, il faut déjà que ce soit dans une ligne éditoriale qui correspond à notre émotion, pour bien répondre à votre question. Et puis ensuite, il y a un petit peu un jeu. Il y a des artistes qui sont très contemporains, donc peut-être plus difficiles, qu'il faut savoir marier avec d'autres artistes plus consensuels, de façon à pouvoir nourrir aussi nos collectionneurs, nos amateurs d'art, nos visiteurs, de différentes écritures et de différentes difficultés, en fin de compte, d'accès à ces écritures. Donc c'est un grand travail, hein, c'est un peu une alchimie, hein, pour être franc, mais il y a une ligne éditoriale qui est sûrement celle de notre collection personnelle.
Alors, vous savez que dans les lieux qui ne sont pas aussi atypiques que The Artistic Red Dot Art, on parle d'exposition permanente et puis d'exposition temporaire. Mm-hmm. Est-ce que dans votre ligne éditoriale, Eric Dos Santos, vous avez peu ou prou la même organisation? Y a-t-il des permanents et des gens qui viennent, allez, on va dire de façon épisodique?
Alors c'est un petit peu ça. On essaye de faire en sorte de défendre nos artistes que l'on a depuis le début. Mais tout en permettant d'en faire rentrer d'autres. Hein. Donc la difficulté, elle est là. Hein. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Si un artiste a une écriture qu'on peut retrouver chez 3-4 autres artistes, on va vraiment donner la préférence au premier que l'on a sélectionné.
Okay.
Pour pas, comment on va dire... Parce qu'on a un job de défendre et de faire vivre les artistes. Donc, on dans la réserve, on a un fonds permanent qui est le fonds depuis le début. Et il nous arrive, entre deux expositions, de faire des ventes dans la réserve. Où les gens disent « Ah, j'avais bien aimé cet artiste. » Puis en disant « Tiens, j'ai 2-3 toiles. » Et on fait une micro-exposition dans le jardin. C'est tout. Je trouve que c'est peut-être la meilleure des expos, d'ailleurs. Et puis, la personne porte dans la main, vous savez, comme on porterait un panneau, porte dans la main le tableau en disant « Non, c'est celui-là que je veux. » Donc, on défend les artistes tout au long de l'année, et même ceux des années précédentes. Et vous voyez, en 2024, on va être à 50% d'artistes des années précédentes, en sachant qu'on n'est que dans la deuxième, donc des 4 expos précédentes, et puis 50% d'artistes nouveaux. Et de faire un roulement de cette façon pour remettre en scène les artistes précédents et remettre avec des œuvres plus actuelles les artistes précédents.
Des peintres, des graveurs, vous en avez parlé, des sculpteurs également. Donc, nouvelle génération et d'autres plus installés qui vous accompagnent depuis un moment. Et quel est le regard que vous-même vous portez sur ce que vous avez pu traverser, même si la galerie est jeune,
hein. Oui, oui, très jeune. On est dans, avec l'Opus 2, c'est la cinquième exposition, donc on peut dire très jeune, hein. J'aime bien le mot jeune quand même.
Exactement.
Et, mais je me rends compte qu'en en fin de compte, je vais vous raconter une anecdote. On vient d'arrêter Opus 1, donc pendant 10 jours, vous enlevez 220 œuvres et vous allez rechercher 220 œuvres et vous remontez 220 œuvres. Donc on va dire, on est content que cette partie intermédiaire soit finie. Et j'ai remarqué que j'avais un très gros affectif à démonter Opus 1 et j'avais l'impression en démontant Opus 1 et en montant Opus 2, de tromper Opus 1 avec Opus 2. Vous voyez, donc, je me suis dit, ah oui, j'ai vraiment une grosse attache affective avec les œuvres. Voilà, c'est comme ça.
Eh oui, le déchirement aussi, même si vous voulez défendre vos artistes, leurs œuvres vous parlent, vous auriez aimé les garder pour vous, mais c'est pas la mission.
Non, c'est pas la mission. Alors, je trouve que quand on vend une œuvre, alors là, c'est la meilleure, meilleure des choses, puisque pour l'artiste, pour le collectionneur, enfin, c'est plutôt quelque chose de très, très sympa. Et je dirais presque, ouais, c'est de pas vendre 220 œuvres d'un coup, vous voyez, le jour du vernissage qui est triste, parce que je trouve qu'une œuvre qui est acquise, et pour vous dire, on demande toujours à nos clients, nos collectionneurs, à nos amateurs d'art, de prendre une photo in situ une fois que l'œuvre est installée, et 90% des gens le font. Et c'est toujours un moment très sympathique parce qu'on continue en fin de compte la relation avec eux et on voit l'œuvre qui était dans la galerie qui, hop, d'un seul coup, est mise au mur, est mise sur une sellette, est mise dans une chambre et puis avec des phrases terribles. Alors, on a une cliente qui dit c'est une belle sculpture assez grande et elle dit je lui dis au revoir tous les soirs hein, puisqu'elle est dans ma chambre et elle me dit bonjour tous les matins. Bon, on a réussi dans notre mission.
Fabuleux, fabuleux, une belle histoire donc qui se passe tout près à Parçay-sur-Sarthe et qui vient vous voir dans votre galerie atypique pour l'art émotion qui règne en maître Eric Dos Santos.
Alors, la réponse est dans votre question, des amateurs d'art. Alors, mais c'est pas suffisant comme réponse. La chose qui est étonnante, c'est qu'il n'y a pas de profil type d'amateur d'art. Vous voyez, il y a un profil type pour acheter des appartements, un profil type pour acheter des frigos. Mais il n'y a pas, ça n'existe pas le profil type. Et c'est la grande difficulté du métier, c'est qui est intéressé par l'art. C'est pas, on va dire que la moyenne d'âge de nos clients est au-dessus de 50 ans. Donc on se rend compte que quand on a vécu, peut-être qu'on est plus à même, on a peut-être plus le temps aussi de se consacrer du temps à soi-même pour voir de l'art. On va dire que c'est un début de réponse. Et ensuite, vous avez des gens qui ont un petit salaire, qui ont un gros salaire. Vous avez des gens qui ont une grosse maison, une petite maison. Des gens qui sont urbains, qui sont ruraux. Là-dessus, il n'y a aucune définition. C'est plutôt une émotion, comme on le disait tout à l'heure, que l'on a et qu'on n'a pas. Et pour la meilleure façon, en fin de compte, de trouver des personnes, c'est de commencer à communiquer sur la galerie, se faire connaître pour donner envie, en fin de compte, aux gens à venir. Et ensuite, on se rend compte que le bouche à oreille est quelque chose d'énorme. Les gens qui ont vécu une expérience à la galerie ont tendance à revenir une semaine ou deux semaines après avec des amis en leur disant on a vu un truc, il faut que vous veniez. Et on sait que dans ce cas-là, les gens qu'ils amènent ont une acquaintance et une émotion par rapport à l'art.
Et j'imagine que pour venir, puisqu'on parle d'un lieu atypique, rien ne se fait comme dans les autres galeries, on va dire traditionnelles. Comment fait-on pour venir vous voir alors?
Alors la première chose, il faut prendre son mail, son téléphone, son SMS, enfin son mobile, et puis appeler tout simplement. Alors ça peut être quelquefois un frein, hein, parce que prendre un rendez-vous dans une galerie, c'est pas habituel. On prend un rendez-vous chez le médecin, on achète des billets de train, là c'est un peu un rendez-vous, etc. Mais une galerie, on n'est pas habitué, hein, on prend pas un rendez-vous dans une boulangerie. Donc mais pourquoi on fait des rendez-vous privés? La première chose, c'est que ça vous permet, vous, en tant qu'amateur d'art, visiteur, déjà de bloquer 2 heures dans votre agenda. Donc déjà, c'est une préparation un petit peu à vivre une expérience. La deuxième chose, c'est que quand vous venez à un rendez-vous privé, vous êtes tout seul. Si vous venez à 2, à 3, à 4, ben vous êtes tout seul à 2, à 3, à 4. Et la galerie vous appartient. pendant 2 heures, vous êtes libre dans la galerie. Alors souvent, les gens veulent que je les accompagne, mais il y a toujours un moment où je les abandonne.
Pourquoi ?
Pour qu'ils n'aient pas d'influence extérieure, qu'ils puissent refaire le tour. Vous savez, la galerie est grande, donc ça prend un certain temps pour tout voir. Et de refaire un deuxième tour, parce que les premières œuvres, vous les avez un peu oubliées à la fin de la visite. Et donc de reprendre le temps, et surtout tout seul, pour être seul avec son émotion, avec son épouse, si c'est un couple, ou son épouse, et de pouvoir vraiment se dire peut-être qu'on va acquérir là, et acquérir cette œuvre et prendre le temps de la réflexion. Et le truc est intéressant, c'est très rare d'avoir une galerie à soi tout seul. C'est très rare d'être tout seul dans un musée. Hein, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vivre ça, c'est
jamais.
Extrêmement rare. Donc c'est un petit peu une manière de vous donner quelque chose qui est rare, mais qui n'est pas très très dur à acquérir, il suffit de prendre rendez-vous.
Là, ce qu'on entend d'habitude, c'est que tel lieu a été privatisé par quelqu'un qui a de l'entregent, qui a une fortune conséquente. Et là, ce que vous me décrivez, c'est que c'est aussi quelque chose qui est de l'ordre du possible pour le commun des mortels chez vous.
Tout à fait. Il suffit de téléphoner un SMS, un mail, et puis on trouve une date et on vous assure que pendant les 2 heures de la visite... Alors pourquoi je dis 2 heures? Ça paraît énorme. Hein, c'est que, on va dire, c'est statistique, c'est la durée moyenne d'une visite. Le record étant de 3h40, ce qui est pas mal. Mais j'ai rarement vu en dessous d'une heure. Ou alors c'est les gens qui sont trompés et puis ils sont trompés d'adresse. Mais c'est assez étonnant parce qu'au bout de 2 heures, ils se disent « Mais comment ça se fait qu'on a passé 2 heures, on ne les voit pas ?» Mais je crois que la réponse, c'est que comme on a pris rendez-vous, comme on s'est presque préparé psychologiquement à cette visite, les 2 heures passent tout seul, passent très vite.
Et pour des gens qui, au départ, n'y connaissent rien, et comme vous le disiez à l'instant, une fois parvenu à l'âge où on s'intéresse à autre chose que soi-même, on a une carrière qui est faite, est-ce que quand ils viennent, il y a certains qui vous demandent, allez, guidez-nous, donnez-nous quelques bons tuyaux, comme on dit.
Alors, je pense que je vais répondre en deux temps.
D'accord. Allez-y,
et surtout,
on a le temps.
Surtout reprenez la question si jamais je l'oublie. Hein. La chose qui est importante, on n'y connaît rien, c'est pas grave. De toute façon, on peut pas encore s'y connaître dans tout. Par contre, son émotion, on la connaît. Ou on la connaît pas, mais elle va réagir d'elle-même. Donc, on va faire parler son émotion, même si on n'y connaît rien. Hein, on aime, on n'aime pas. Vous avez le droit de ne pas vous y connaître en cuisine et d'apprécier un très bon repas.
Tout à fait.
Strictement pareil. Je dirais que la garantie que l'on vous apporte, c'est que les artistes que l'on a sont de renommée nationale ou internationale, ou sont des jeunes poulains, on pourra revenir sur ce terme poulain, dont on a validé l'exigence. Donc ce qui fait que vous preniez cet artiste ou un autre, quelque part vous n'avez pas fait d'erreur de goût et vous n'avez pas fait d'erreur de qualité. Ça c'est hyper important. Donc même si vous n'y connaissez rien, il y a une garantie, en fin de compte, de l'exigence et de la qualité de l'ensemble des artistes. C'est quand même important de le dire. Moi j'adore quand les gens me disent « j'y connais rien mais ça me parle, je le veux ». C'est suffisant. Hein, je pense qu'on fait beaucoup de choses dans notre vie qui correspondent à ça. Hein, et à partir du moment où il y a une garantie d'exigence et de qualité de l'artiste, vous pouvez vous lâcher entre guillemets. Et puis vous avez des c'est assez marrant, des gens qui sont très très cultivés en histoire de l'art et puis qui vont pas avoir d'émotion. D'accord, vont pouvoir vous décrire la technique 10 fois mieux que ce que je serais capable de faire, mais non, et l'émotion elle est où? j'aime pas, vous voyez, j'en ai envie, il y a une minute je l'avais pas vu, mais maintenant je peux plus vivre sans, vous voyez, alors que si vous aviez pas regardé, vous seriez passé à côté. Donc je pense que c'est pas un critère de s'y connaître. Après, moi je ne décris jamais les œuvres. Donc, les tuyaux, les bonnes choses, vous ne les aurez pas. Par contre, je peux vous parler pendant des heures de la technique, si nécessaire, mais je ne sais pas si c'est important, et puis vous parler de l'artiste. Mais dire pourquoi l'artiste a fait ça, lui-même ne sait pas. Décrire l'œuvre et son état psychologique quand il l'a fait, de toute façon, il serait faux. Donc, Picasso a une phrase qui est terrible et qui est adorable. Il dit « les œuvres appartiennent à ceux qui les regardent ». pas ceux qui les ont faits. Parce que ceux qui les ont faits en pensant à quelque chose qui n'est peut-être pas la vraie chose. Donc vous, avec votre vécu, avec votre émotion, avec tout ce que vous êtes...
C'est singulier.
C'est vraiment singulier. C'est vous, on va avoir une réaction, tous les deux, très différente par rapport à une œuvre, ou même par rapport à une émotion non artistique. On va réagir très différemment par rapport à une situation. Donc la chose qui est importante, c'est plutôt ce que vous ressentez. Puis après, on peut donner des petits indices, mais jamais dans la description, et jamais dire, dis donc, ça c'est pour toi. Hein. Ah, ça c'est vraiment toi. Non, jamais.
Eric Dos Santos, alors il y a des personnages qu'il faudrait aussi que vous nous parliez, les artistes.
Ah.
Comment ils ressentent ça, le travail que vous faites pour eux, parce que bah, vous leur rendez service?
Alors, c'est vrai que c'est hyper important. Et pourquoi les artistes, comme on le disait, on a deux types d'artistes. On a des artistes de renom, national ou international, qui sont installés et qui, globalement, ça fonctionne. Hein, on va dire, ils vivent de leur art, ça fonctionne. Et puis, on a les poulains sur lesquels on pourra revenir, qui sont nos coups de cœur. Et donc, ils ont plusieurs galeristes qui les appellent régulièrement, et eux-mêmes font le choix d'y aller ou de ne pas y aller. Parce que les œuvres qui sont bloquées pendant 2 mois, 3 mois, ne peuvent pas aller dans une autre galerie, donc ils doivent gérer leur rémunération. Et que lorsqu'il y a une vente, donc ils doivent aussi travailler avec des galeries intéressantes. Hein. Ce sont des artistes de renom, ils doivent travailler avec des artistes intéressantes. Donc, en tant que collectionneur, on a déjà une position, on va dire, favorable, entre guillemets. Et puis ensuite, le lieu n'enlève rien, puisqu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir ce type de lieu. Et puis ensuite, tout le travail qui est de faire connaître la galerie auprès d'amateurs d'art, auprès de collectionneurs, et d'avoir un nombre de ventes suffisantes pour les convertir à venir exposer chez nous. Ensuite, on communique beaucoup radio, comme on le fait là, presse, et puis aussi télé. On a la chance d'attirer les télés. Et donc, pour les artistes, c'est aussi quelque chose d'important d'avoir cette communication dans une galerie atypique et singulière, pour reprendre les deux adjectifs de tout à l'heure.
Et j'imagine que vous avez sûrement réfléchi à comment enrichir cette aventure qui... est bien installé, si j'en juge comme on dit ce que j'ai croisé en début de semaine et qui, une fois mis au courant du fait qu'on se rencontrait tous les deux pour réaliser cet entretien, bon, que d'éloges hein, pour vous, rien de négatif. Et je suis sûr que vous n'allez pas vous contenter de ça, vous êtes déjà dans le coup d'après, non ?
J'ai l'impression d'être chez le docteur, là. Vous êtes vraiment incroyable. Franchement, félicitations. Félicitations. Et il y a quelque chose qui va commencer, qui va être un gros travail, hein, qui va prendre 2-3 ans pour arriver à maturité, qui est d'aller au-devant des besoins. Et en fin de compte, et de proposer en fin de compte à des personnes ayant prenons un exemple simple des jolis des vignerons qui ont un joli, on va dire, domaine dans la Loire, en Champagne, dans le Bordelais, et puis qui ont besoin, qui se sont fait construire un chai cathédrale, etc. Et puis quelque part, il manque une connotation culturelle. Vous savez, il manque la petite chose qui fait que ben, y a une magie. Et ben, c'est d'aller au-devant de ces personnes-là en leur disant « c'est super ce que vous faites, vous êtes passé en bio, votre chai par gravitation, c'est super beau et tout, mais il vous manque une petite étincelle qui rendrait encore plus beau et que vous pourriez véhiculer sur les étiquettes, sur votre marketing, sur votre communication et dans votre âme. » Et c'est de leur proposer en disant « nous, on peut vous proposer des installations, des sculptures monumentales, mais avant de faire ça, on va passer une journée ensemble. Hein, on va vivre avec vous. Donc, on va aller dans la vigne avec vous, on va aller à des réunions de management avec vous, on va aller déjeuner avec vous, on va aller regarder votre maison, on va regarder comment vous vivez. Et à la fin, on va vous faire une proposition du type d'artiste ou du type d'œuvre qui correspondrait à qui vous êtes. Donc, c'est là, il est vraiment au devant, en disant aux gens, vous ne savez pas, mais il vous manque une ligne culturelle, une ligne artistique qui va véhiculer, en fin de compte, ce que vous faites professionnellement et personnellement.
Merci de nous avoir donné donc cette info exclusive hein, sur Radio Prévert. Et avant de vous projeter jusque-là, il y a votre actualité, on va dire, allez, immédiate, puisque vous parliez d'Opus 1 qui s'est terminé à la fin du mois de mai. Là, on est dans l'ère d'Opus 2. Donc, en parlant d'Opus 1 et 2, il s'agit d'un festival d'art actuel que vous proposez à The Artistic Red Dot à Parçay-sur-Sarthe, Eric Dos Santos. Et on va terminer avec ça, avec ce festival qui en est à sa... Quelle édition qui en est à...
Alors, c'est la cinquième exposition, le Festival d'art actuel. Donc, c'était Opus 1, Opus 2. Mmh. Et sur l'ensemble de la vie, de la jeune vie de cette galerie, c'est la cinquième exposition. Alors, Opus 2, c'est 19 artistes. C'est 13 femmes artistes et 6 hommes, si ça fait bien 19, mon calcul. Et puis, on a des peintres, on a des sculpteurs, on a des installations, on a de la gravure, on a de l'encre sur papier, donc une diversité de techniques. Et en tout, on doit être, on dit au-dessus de 220 œuvres, on doit être plus proche des 245-250 œuvres visibles au sein de cet Opus 2.
L'Opus 2 qui se tient du 8 juin au 16 juillet et s'est organisé autour de temps forts.
Tout à fait.
Et le premier temps fort
étant dimanche 11 juin, donc c'est le vernissage. Alors c'est un vernissage qui dure toute la journée pour permettre aux personnes qui sont dispo que le matin, dispo que le midi, dispo que l'après-midi, de pouvoir venir au moment où ils veulent. Donc à 10h30, on vous accueille avec café croissant. 12h30, c'est le brunch. 15h, un concert de jazz avec notre ami Joanne Lefebvre. C'est un trio de jazz qui dure de 15 à 16 heures. Et puis, la visite de la galerie est de 10h30 à 18h30. Sauf pendant le concert de jazz où on ferme la galerie. Ça, c'est c'est le vernissage. On dit toujours, j'aime bien dire cette phrase-là, c'est le moment où on vient vérifier si le galeriste a bien fait son job. Hein. En gros, il y a du monde, donc ce n'est pas un moment privilégié. On rencontre des gens qu'on connaît, puisqu'on finit par avoir des amis qui se sont créés au sein de la galerie. Donc, c'est le moment où on se dit, ouais, ça vaut le coup. On revient en rendez-vous privé la semaine prochaine ou la semaine d'après. D'accord. Et donc, mais c'est un moment festif. Ensuite, à la fête de la musique, donc qui est comme tous les ans le 21 juin, et là c'est un mercredi, on propose un dîner en blanc. Alors ça fait très parisien, hein, ça, un dîner en blanc. Dîner en blanc, donc on met à disposition des tables et des chaises, et vous venez. On vous conseille d'être habillé en blanc, mais allez, on acceptera
des écarts
des uns et des autres. Et vous venez avec votre panier de pique-nique, votre bouteille, et vous serez entouré d'amateurs d'art, de collectionneurs, de gens qui vibrent de la même émotion que vous. Et ça permet de rencontrer des personnes qui connaissent très bien la galerie, des gens qui vont découvrir la galerie lors de ce dîner et parler avec d'autres personnes la connaissant mieux que vous, entre guillemets, ou moins bien que vous. Voilà. Une conférence, on fait une conférence à chaque opus. Et là, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, hein, c'est l'art émotion, ce que nous défendons par rapport à l'art business. Parce que le marché de l'art est vraiment quelque chose de très très flou, comme on le disait tout à l'heure. Et des fois, il faut remettre un petit peu l'église au centre du village en appelant un chat un chat par rapport à c'est quoi l'art émotion et l'art business et tous les fantasmes que l'on voit, une œuvre à 450 millions d'euros. Voilà, j'allais dire, le prochain truc, c'est l'œuvre qui vaudra plus d'un milliard. Qui n'est pas encore passé, vous voyez. Bon, est-ce qu'on a parlé d'émotion quand on a dit ça? Je ne crois pas trop. Mais essayer de repositionner les choses. Alors, c'est une conférence un peu rude, entre guillemets, puisqu'on va parler de données économiques relativement froides. Mais bien sûr, pendant cette conférence, il y a aussi la visite de la galerie qui ramène un peu d'émotion dans cette conférence.
C'est essentiel.
Et puis, on terminera une semaine avant la fermeture, quelque chose qui va être assez étonnant, une performance à quatre mains. Donc, deux artistes, une artiste abstraite qui est Rogine Doré, une artiste figurative qui est Daniel Burgart, qui ont une toile de 2 mètres sur 2 mètres, ce qui fait 4 mètres carrés quand même, et qui ont leurs pinceaux, leurs acryliques, et qui n'ont que 2 heures pour faire une pièce, faire une œuvre qui n'est pas du tout prévue et qui n'a pas du tout été préparée. Elles font l'effort de pas du tout se parler et elles se retrouvent à 15h et elles démarrent. Donc la vraie histoire, c'est de savoir laquelle va démarrer. parce que le premier trait va donner la suite des deux heures. Et là, vous pouvez participer, bien sûr, à cette performance qui est toujours un moment un peu étonnant, quoi, parce qu'on voit de l'intérieur, hein, c'est un peu une opération à ciel ouvert, à cœur ouvert, hein, où on voit comment un artiste peut travailler. Et souvent, il y a des gestes qui sont assez fabuleux à regarder.
Alors, quand on n'a pas vécu Opus 1, Eric Dos Santos, est-ce qu'on peut également vivre intensément et avoir l'émotion pour cette proposition artistique dans le cadre d'Opus 2?
Oui, et puis que de la même façon qu'on n'a pas vu la première expo du 30 septembre, on peut se rattraper. Allez, on va le dire, Jocelyn, si on n'a pas vu on peut se rattraper avec
Bonne
Opus
réponse.
2. vous m'avez lancé la perche. Oui, de toute façon, et puis il y aura en septembre une autre expo, et puis l'année prochaine. J'ai envie de dire, l'Opus 2, je trouve qu'il a du peps. Il a un peps assez incroyable, et peut-être plus encore... plus de couleurs que l'Opus 1. Voilà. Moi, j'aime beaucoup les deux, mais voilà, je dirais qu'il est peut-être plus coloré. On a peut-être des artistes qui utilisent beaucoup plus de couleurs que sur l'Opus 1. Ensuite, 19 artistes. Hein, donc, est-ce que les 19 vont vous plaire? Non, c'est obligatoire, c'est la vie. Mais je pense que dans les 19, vous aurez sûrement certains moments d'émotion dans les différentes salles où on retrouve des artistes. Ouais.
Alors, vous allez nous rappeler les dates, s'il vous plaît?
Alors, on va faire on va essayer de bien faire le job. Donc, c'est du 8 juin, donc depuis hier jusqu'au 16 juillet. Le dimanche 11 pour le vernissage. Fête de la musique le soir, le mercredi 21 juin. La conférence le mercredi 28 juin à 19h. Et la performance le dimanche 9 juillet à 15h. Et sinon, la galerie est ouverte sur rendez-vous du mercredi au dimanche. Il suffit d'appeler par téléphone, un mail ou un SMS, et l'idéal, c'est vous allez sur le site The Artistic Red Dot, et si le nom en anglais vous dérange, vous tapez Eric Dos Santos ou Galerie à Parcé sur Sarthe, et logiquement on devrait être très très bien placé, on devrait être à un clic de votre rendez-vous à la galerie.
Et on précise que pour assister au temps fort d'Opus 2, il faudrait penser à réserver aussi.
Oui, c'est vraiment pour une question de logistique. Hein, on est des gens qui savent recevoir, donc ben voilà, on saura s'occuper de vous une fois que vous êtes là, mais il faut gérer les logistiques, les chaises, les verres, etc., etc. Donc de nous prévenir de votre arrivée est juste une manière de mieux vous recevoir.
L'art émotion, on en a parlé sur Radio Prévert avec Eric Dos Santos pour terminer cette émission. Allez, dernière question, est-ce que vous peignez ou est-ce que vous êtes artiste dans l'âme vous-même?
Alors, pas dans le sens artistique dont on vient de parler, mais je pense que je suis un peu un artiste dans la vie.
En quel sens?
Ah, je pense que je sais créer de l'émotion, mais même si je ne sais pas modeler, même si je ne sais pas peindre, etc. Quoi, on m'a toujours dit, toi, t'es un artiste.
C'est tout un art.
Voilà.
Et merci à l'artiste Eric Dos Santos, invité de Radio Prévert, dans ce studio de La Flèche, où il a su, je l'espère, créer de l'émotion chez vous, auditeurs qui l'écoutez sur Radio Prévert. Vous reviendrez nous parler d'art?
Ah, si vous m'invitez, ça sera avec plaisir, hein, avec plaisir. Et je vous remercie, Jocelyn, et je remercie tous les auditeurs, et bien sûr, je vous encourage à venir vivre ce moment d'émotion à vous en visitant cette galerie.
Installé donc à Parcé-sur-Sarthe, on a été ravis de parler de cette galerie The Artistic Red Dot Art que vous avez créée. Eric Dos Santos, invité de Radio Prévert, à la prochaine puisque vous avez accepté de revenir nous parler d'art.
À très vite donc.
À très vite.